Avant même ce moment, quelques-uns de ses admirateurs avaient subitement découvert sa ressemblance avec la grande figure de pierre. Circonstance d'autant plus frappante qu'il était connu sous le nom de Tête de Rocher. Or, pendant que ses amis politiques travaillaient à l'envi à son élection, Tête de Rocher, comme on l'appelait, résolut d'aller visiter sa vallée natale. Il n'avait, disait-il, d'autre but que celui de serrer la main à ses compatriotes, et personne ne supposa un instant que ce fût de sa part une manœuvre électorale. On fit donc de splendides préparatifs pour recevoir le grand homme d'État. Une escorte de cavalerie alla le recevoir aux limites de la province, et les habitants abandonnèrent leurs travaux ou leurs affaires pour s'échelonner sur son passage. Ernest fit comme les autres, bien qu'il eût déjà éprouvé deux déceptions. Mais il était d'un naturel si naïvement confiant qu'on le trouvait toujours prêt à croire à la bonté comme à la beauté. Il était donc venu, dans le ferme espoir, de considérer cette ressemblance attendue depuis si longtemps. L'imposante cavalcade parut enfin sur la route, au milieu d'un nuage de poussière, soulevé par les pieds des chevaux. Toutes les notabilités du pays avaient tenu à honneur d'en faire partie. Les officiers de la milice en uniforme, les membres du Congrès, le shérif, les éditeurs de journaux et même quelques gros fermiers avec leurs habits du dimanche, montant leurs fringants poneys. C'était en vérité un brillant spectacle. Les cavaliers portaient des bannières déployées et, sur quelques-unes d'entre elles, on voyait le portrait de l'illustre personnage et la grande figure se souriant comme deux frères. Et si la peinture ne mentait point, on ne pouvait voir deux visages plus exactement pareils. Les fanfares d'une musique triomphale envoyaient en l'air des torrents d'harmonie que répercutaient les échos de la vallée, comme si le coin le plus humble de son pays natal eût trouvé tout à coup une voie pour accueillir cet hôte illustre. Mais l'effet produit par ce phénomène acoustique devenait réellement magique lorsque le son était renvoyé par les abîmes que dominait la grande figure. On eût dit alors que le colosse de pierre mêlait sa puissante voix au cœur triomphal pour saluer l'homme de la prophétie. Cependant, les chapeaux volaient en l'air. Et l'enthousiasme devint si contagieux qu'Ernest jeta également son chapeau, et sans trop savoir pourquoi, sans même l'avoir vu, se mit à crier aussi fort que les autres. « Hurrah pour le grand homme ! Hurrah pour Tête de Rocher !» Au milieu du cortège s'avançait, au pas de quatre magnifiques chevaux blancs, une voiture dans laquelle siégeait, tête nue, le fameux homme d'État. « Avouez, dit à Ernest un de ses voisins, que la grande figure et Tête de Rocher se ressemblent comme deux jumeaux. » En effet, au premier aspect de cette physionomie souriante, saluant chacun du haut de la voiture, Ernest ne put s'empêcher de lui trouver quelque ressemblance avec la figure dont les traits lui étaient si familiers. C'était bien ce front élevé, proéminent, ces lignes sculpturales dont un titan semblait avoir fourni le modèle. Mais il eut vainement cherché la majesté sublime, la divine sympathie qui transformait ses traits de granit en un être intelligent. Le feu sacré du génie manquait, ou s'était éteint dans l'œil profond du grand homme d'État. Il avait été remplacé par une expression de satiété suprême, telle qu'on la peut lire sur le visage d'un enfant trop grand pour ses jouets, ou sur celui d'un homme riche, des dons les plus rares de l'intelligence, mais dont la vie s'écoule vide et inutile, parce qu'il n'a pas appliqué ses puissantes facultés à un but noble et élevé. Cependant, le voisin d'Ernest, le poussant du coude comme pour l'interroger, « N'est-ce pas, lui dit-il, que c'est bien tout le portrait de l'homme de la montagne ?»« Non, répondit brusquement Ernest, je ne vois aucune ressemblance. » Alors, tant pis pour la grande figure, reprit le voisin, qui se mit à vociférer de plus belle. Ernest se détourna tristement, et presque avec désespoir, car de toutes ses déceptions, celle-ci était la plus cruelle. Il avait devant les yeux un homme qui aurait pu accomplir la prophétie, et qui ne l'avait pas voulu. En même temps, la cavalcade, le cortège, la musique et les bannières disparurent dans un tourbillon de poussière. Et le nuage, se dissipant lentement, laissa voir la grande figure de pierre qui, souriant à Ernest, semblait lui dire « Allons, courage ! J'attends depuis plus longtemps que toi. Et cependant, ma confiance est la même. Espère donc, l'homme viendra. » Le temps, cependant, précipitait sa course, et les années, s'accumulant sur sa tête, blanchirent sa noire chevelure et tracèrent des rides vénérables sur son front. C'était maintenant un vieillard dont les sages pensées surpassaient en nombre les fils d'argent qui croissaient sur sa tête. Les rides même qui se croisaient sur sa respectable figure semblaient des inscriptions gravées par le temps et dans lesquelles on eût pu déchiffrer les maximes de cette sagesse que lui avaient apportée les années. En même temps, Ernest était sorti de son obscurité. La renommée, qu'il avait si peu désirée, était venue le trouver, et son nom était célébré bien au-delà des limites de cette vallée dans laquelle il était resté confiné. Des professeurs, des gens de tout état, venaient souvent de fort loin pour causer avec lui, sur le bruit qui courait que ce pauvre laboureur avait, sur toute chose, des idées différentes de celles des autres hommes, et qu'il n'avait pas puisé dans des livres. Quels qu'ils fussent, savants, hommes d'État, philanthropes, Ernest recevait ses visiteurs avec cette sereine bienveillance, cette sincérité qui le caractérisait. Il parlait avec eux sur les sujets les plus divers, il recevait en confidence leurs plus secrètes pensées, et leur communiquait sans nulle difficulté celle qui faisait l'objet de ses méditations. Son cœur était un vase du cristal le plus pur, rempli d'une précieuse liqueur où chacun pouvait puiser à son gré. En parlant, sa figure s'illuminait à son insu et ses yeux lançaient une flamme douce comme le crépuscule d'un beau soir d'automne. Ses hôtes le quittaient en silence, pensif, l'esprit rempli de ses discours, et cheminant par la vallée, il s'arrêtait à considérer la grande figure. Il leur semblait avoir vu quelque part un visage à sa ressemblance, sans qu'ils pussent pourtant préciser en quel endroit. Or, pendant qu'Ernest croissait en âge et en célébrité, on apprit qu'un des fils du pays était devenu un grand poète, répandant ses chants harmonieux au milieu du trouble et de l'agitation des villes. Bien qu'éloigné de sa pittoresque vallée, il célébrait dans ses vers les pics neigeux qu'il avait si souvent parcourus dans son enfance, et surtout la grande figure de pierre qu'il avait immortalisée dans une ode sublime. C'était en vérité un homme de génie. La nature semblait plus belle quand il lui consacrait un regard, et la création n'eût pas paru complète s'il n'avait été là pour en interpréter les magnificences. Lorsque l'homme était à son tour le sujet de ses vers, il les revêtait d'un caractère plus majestueux, d'une forme plus noble encore, pour montrer les anneaux de cette chaîne invisible mais continue, qui reliait, suivant lui, la grande famille humaine au monde des êtres immatériels. Quelques esprits positifs raillaient à la vérité cette croyance du poète, mais peut-être n'était-il point pétri du même limon, et avait-il été créé par la nature, dans un accès de méprisante amertume, avec la fange dont elle forme les animaux immondes. Ces vers parvinrent un jour à Ernest. Il les lut après son travail, assis sur un banc devant sa chaumière, à cet endroit même où, depuis si longtemps, il faisait provision de sagesse à contempler la grande figure. En lisant ces stances sublimes, qui semblaient un écho de son âme, il tourna vers elle ses yeux rayonnants d'espoir. « Ô majestueux ami, dit-il, n'est-ce pas cet homme qui te ressemble ?» La figure sourit silencieusement. Il arriva cependant que le poète, tout éloigné qu'il fût de la vallée, non seulement avait beaucoup entendu parler d'Ernest, mais encore avait longuement médité sur son caractère, et ne jugeait rien d'aussi désirable que de rencontrer cet homme dont la sagesse merveilleuse n'avait d'égal que sa simplicité. Un matin, il partit pour ce pèlerinage, et au déclin du jour, il arriva près de l'humble demeure d'Ernest. Il eût pu descendre à l'hôtel qui avait été le palais de M. Amador. Mais, sa légère valise à la main, il résolut d'aller demander au sage l'hospitalité et s'informa de la route à suivre. En approchant du terme de sa course, il trouva l'excellent vieillard assis et lisant attentivement un livre. Parfois, posant le doigt sur la page commencée, il interrompait sa lecture et regardait avec tendresse la grande figure de pierre. « Bonsoir, fit le poète. Pouvez-vous donner un abri pour la nuit à un voyageur ?»« Bien volontiers, répondit Ernest, et il ajouta en souriant. « Je n'ai jamais vu la grande figure regarder un étranger d'un air si hospitalier. » Alors le poète s'assit auprès de lui, et tous deux se mirent à causer. Souvent, le poète s'était entretenu avec des hommes plus spirituels ou plus instruits, mais dans aucun cas il n'avait rencontré cette éloquence naturelle qui rendait, pour ainsi dire, familière, les vérités de l'ordre le plus élevé, à force de franchise et de simplicité. De son côté, Ernest était à la fois ému et doucement agité des vivantes images que créait l'imagination du poète, et qui, mélancoliques ou consolantes, mais toujours empreintes d'une radieuse beauté, voltigeaient autour de sa cabane. La mutuelle sympathie de ces deux hommes semblait agrandir le cercle de leurs conceptions et les poussait à creuser les idées qui jaillissaient de leur cerveau plus profondément que chacun n'eût pu le faire dans une méditation solitaire. Leurs pensées, unies dans un commun effort, présentaient une harmonie quasi céleste, dont un seul n'eût pu se dire l'auteur, et dans laquelle, cependant, aucun des deux n'eût su retrouver ce qui lui appartenait en propre. Animés l'un par l'autre, ils abordèrent enfin des sujets tellement élevés et abstraits qu'il ne leur était jamais venu la pensée de les effleurer, et cependant si nobles, si passionnants, qu'ils ne pouvaient se résoudre à les quitter. Tout en écoutant le poète, Ernest crut voir la grande figure se pencher curieusement vers lui. À son tour, il fixa sur lui ses yeux ardents. Qui donc êtes-vous, mon hôte ? Demanda-t-il. Le poète posa la main sur le livre que tenait Ernest. Vous avez lu ces vers, dit-il, alors vous me connaissez, car ils sont de moi. À ces mots, un sentiment plus vif de curiosité anima la figure du vieillard. Il regarda de nouveau le poète, puis la grande figure, mais il baissa presque aussitôt la tête en soupirant. « Pourquoi semblez-vous triste ?» demanda le poète. « Parce que, répondit Ernest, durant toute ma vie, j'ai attendu l'accomplissement de la prophétie, et qu'en lisant ces vers, j'avais espéré que vous pourriez la remplir. Vous espériez, dit le poète avec un faible sourire, vous espériez que je ressemblerais à la grande figure de pierre, et vous êtes désabusé comme vous l'avez été autrefois avec Monsieur Amador, le vieux sang et tonnerre et tête de rocher. Il devait en être ainsi, Ernest. Vous devez ajouter mon nom à ceux de ces illustres personnages et vous résigner à cette nouvelle déception. Car, croyez-en ma tristesse, je ne suis pas digne, ami, d'avoir pour type cette image si grandiose et si douce. Et pourquoi ? Demanda le vieillard en montrant le livre. Ne sont-ce point là de divines pensées ? Il est possible, dit le poète, qu'elles aient ce caractère, et qu'on puisse entendre en elles comme un lointain écho des cœurs célestes. Mais ma vie n'a pas répondu à l'excellence de mes pensées. J'ai fait de beaux rêves, mais je n'ai pas su les réaliser, parce que je n'ai pas conformé mes actes à mes idées. Quelquefois même, oserais-je vous l'avouer, j'ai manqué de foi dans ces principes éternels dont je me suis fait dans mes œuvres le plus fervent apôtre. C'est donc à tort, chercheur infatigable du bon et du vrai, que tu voulais trouver en moi l'image de la figure. Et les yeux du poète se remplirent de larmes, et ceux d'Ernest étaient également obscurcis par des pleurs. Le soleil touchait au terme de sa course. C'était l'heure où, depuis de longues années, Ernest avait coutume de parler à ses voisins assemblés chaque jour pour l'écouter. Il prit le bras du poète, et tous deux se dirigèrent vers l'endroit habituel de ses conférences. C'était un petit vallon, formé par la rencontre de plusieurs collines, et terminé par un rocher dont les parois abruptes étaient cachées au moyen de plantes grimpantes qui en déguisaient les anfractuosités sous un épais tapis de verdure. Au pied de cette roche s'élevait un tertre de gazon qu'ombrageait un bouquet d'arbres touffus. Ernest monta sur cette chaire improvisée et jeta sur son auditoire un regard de familière bonté. Tous attendaient, assis ou étendus à leur guise sur l'herbe drue et fraîche du vallon. Le soleil, près de disparaître, lançait ses derniers rayons à travers les arbres du bocage, et sa lumière ne pénétrait dans cet endroit champêtre que tamisé par leur feuillage épais. Par l'ouverture du vallon, la grande figure souriait à cette scène à la fois joyeuse et solennelle. Ernest parla, et dit simplement à ses auditeurs ce que lui dicta son cœur. Puissantes étaient ses paroles, car elles n'étaient que l'expression de ses pensées. Profondément utiles étaient ses pensées, car elles avaient pour garant l'exemple de sa vie entière. Ce n'étaient point de vains mots qui s'échappaient des lèvres de l'orateur, mais des paroles de vie et d'amour, breuvage plus riche que si toutes les perles d'Orient y eussent été dissoutes. Le poète, en l'écoutant, sentit que le caractère d'Ernest dépassait en poésie ses œuvres les plus sublimes. Les yeux brillants de larmes, il contempla respectueusement cet homme de bien et se dit en lui-même que jamais figure de prophète n'avait égalé cette physionomie bienveillante et doucement méditative avec sa couronne de cheveux blancs. Au loin, chaudement éclairé par le soleil et le front surmonté d'un nuage de neige, comme celui du vieillard, apparaissait la grande figure dont le regard sympathique et majestueux semblait embrasser le monde. En ce moment même, comme transfiguré par la grandeur de ses pensées, le visage d'Ernest offrait une expression de bonté tellement divine que le poète, poussé par une force irrésistible, tendit les mains vers lui en s'écriant « Voyez, voyez tous ! Ernest est l'image frappante de la grande figure de Pierre !» Alors tout le peuple regarda et vit que le poète disait vrai. La prophétie était accomplie. Mais Ernest, ayant achevé ce qu'il avait à dire, reprit le bras du poète et s'achemina lentement vers son humble maison. Il espérait encore qu'un homme viendrait un jour, plus sage et meilleur que lui, et qui ressemblerait à la grande figure de Pierre. Nathaniel Hawthorne, Contes étranges, traduction Spol, La grande figure de Pierre.